Édicte par le père Philippe, à Rimont, le 5 mars 91.
Essayer de comprendre ce qu'est la philosophie politique. Et dans la philosophie politique, comprendre le fondement, la famille. Et il serait très intéressant de mettre le parallèle avec le point de vue du gouvernement divin. La philosophie politique doit nous aider à comprendre toute la grande théologie du gouvernement divin. Et la théologie du gouvernement divin est pour nous quelque chose d'extrêmement important dans la perspective actuelle de l'Église. Puisque Vatican II a demandé qu'on reprenne toute la théologie dans la perspective de la théologie d'économie divine. Je crois que Vatican II a été conduit par le Saint-Esprit. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui nous demande de reprendre toute la théologie dans cette perspective, qui était de fait, comprenons bien, une perspective tout à fait première de la théologie. Il ne s'agit pas de retourner au Père de l'Église. C'est la tentation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de théologie. Dans l'Église, on retourne au Père de l'Église. J'ai entendu ça. Dans le temps. C'était à la solitude, c'est un grand mot. Je ne dis pas qui était là, parce que. Mais c'était extrêmement intéressant. D'entendre. Perspective très nette. On ne peut pas retourner à Saint Thomas, c'est passé. Il faut retourner au Père de l'Église pour voir que de fait, la théologie n'a pas l'unité à laquelle on prétend, mais qu'on est dans le pluralisme. Et c'était entre autres par rapport à la théologie du péché originel. C'était un peu prophétique, vous savez, prophétique dans le sens que c'était. On voulait retourner au Père de l'Église pour retrouver le pluralisme théologique. C'est important de comprendre ça. C'est pas du tout ce que Vatican II demande. Vatican II demande, de fait, que grâce, il ne le dit pas explicitement, hein, j'interprète, grâce à la théologie scientifique de saint Thomas, on puisse avoir une théologie de l'économie divine qui distingue, précise ce que les pères de l'Église ne pouvaient pas préciser. Et les deux cités de saint Augustin, c'est une théologie magnifique de la théologie de l'économie divine. Mais quand vous lisez cela, la cité de Dieu, mais c'est pas toujours très commode de bien comprendre. La théologie scientifique de saint Thomas permet d'élaborer une théologie de l'économie divine beaucoup plus précise. Alors, je crois profondément que la grande tentation aujourd'hui, parce que c'est la tentation philosophique, et la tentation philosophique se retrouve toujours à l'intérieur de la tentation théologique. On a perdu le sens de la finalité depuis le XIVe siècle. Occam. Ça, c'est net. Au plan philosophique. Et au plan théologique. Qu'est-ce qui remplace la finalité? C'est le fondement. On veut retourner à quelque chose de fondamental. Vous voyez, même en exégèse, on retrouve ça, ou par rapport à la parole de Dieu, le fondamentalisme, qui n'est pas du tout la finalité. Il faut faire attention. C'est un peu la cause matérielle qui l'emporte sur la cause finale, au plan critique. Il y a un lien très grand entre la cause matérielle et la cause finale. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas les confondre. Il ne faut surtout pas remplacer la cause finale par la cause matérielle. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui constamment. Vous retrouvez ça même dans l'art. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'est que l'art. Regardez au point de vue peinture, au point de vue sculpture, quand vous voyez les sculptures modernes, vous les admirez, c'est splendide, c'est merveilleux. Oui, qu'est-ce que c'est, cette sculpture? C'est pas très bien. On a l'impression que plus c'est original, plus c'est moderne. Plus ça épate, plus c'est moderne. Est-ce que c'est ça la sculpture? Et au fond, il y a un retour à la matière. C'est l'éclat de la matière, c'est pas l'éclat de la forme qu'on veut montrer. Et ça, c'est assez significatif. Regardez dans l'art. Moi, ça me frappe énormément, parce que l'art est toujours ce qui manifeste. L'art est toujours un peu prophétique. Et il manifeste d'une façon très forte des tendances qu'au plan philosophique, qui sont dites aussi au point de vue philosophique, et qui sont peut-être pas dites de la même façon, parce que la philosophie reste souvent dans la confusion. Quand on a perdu le sens de la causalité finale, qui est la cause des causes, on retombe très facilement dans un primat de la cause matérielle. Ce que je crois. Et ce qu'on va revoir maintenant, un renouveau de Marx et de Lénine dans le point de vue de la cause matérielle. Communisme est perdu, philosophie politique, on reprend quelque chose de plus fondamental, et qui sera justement quelque chose qui va, de fait, ne plus avoir d'odeur politique, mais qui va saisir le point de vue de l'intelligence, je crois. Il n'y a plus de pensée, aujourd'hui, face à ça. Alors, on va voir un règne, reprise de ça. Il faut être attentif, très attentif à ce remplacement de la cause finale par la cause matérielle, qui est le fondement, vous voyez, et qui pourra, avec la dialectique hegelienne, unir la droite et la gauche de façon très 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 forte. Et par là, il y a une perversion d'intelligence qui est en train de se faire. On ne peut sauver l'intelligence que par la finalité. Quand Jésus dit Dieu est esprit, c'est bien significatif. L'esprit implique la finalité. Autrement, c'est plus l'esprit. Et c'est l'esprit qui découvre la finalité. Et quand il n'y a plus cette découverte de la finalité, mais dans toute sa force, quand il n'y a plus la finalité, bien je crois que c'est la causalité matérielle qui l'emporte. Je dis ça pour bien comprendre. Quand je dis qu'il faut, si on obéit à Vatican II, essayer d'élaborer une théologie de l'économie divine. Pour élaborer une vraie théologie de l'économie divine, il faut une philosophie politique. C'est capital. Alors, notons tout de suite, une philosophie politique, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. La dernière, Machiavel. Cherchez bien. Machiavel donne une philosophie politique, c'est sûr. Le prince. Qui est justement la destruction de la finalité. Et qui est une philosophie de efficacité pure ne tient pas très longtemps et elle retourne à la cause matérielle. Il y a une stabilité que la causalité, que l'efficacité n'a pas. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une philosophie politique, ce que nous allons essayer de faire dans un instant? On voit que la famille est le fondement. Là, je crois que tous ceux qui essaient de faire une philosophie politique voient bien la place de la famille. C'est fondamental. Quand vous regardez une théologie de l'économie divine, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le point de vue politique et le point de vue famille sont inversés. C'est très curieux. Et c'est peut-être une des clés qui nous permet de comprendre le gouvernement divin. J'explique. Dans une théologie de l'économie divine, vous êtes attentif à l'aspect génétique. Qu'est-ce qui commence ? L'alliance, c'est un père, Abraham. C'est répété avec un fils, Isaac. Isaac, c'est le fils des fils. On l'a attendu assez longtemps. Donc il y a un désir intense pour Isaac. Puis Ismaël avant, qui n'était qu'une préparation. Et puis Isaac, l'enfant du rire, c'est le fils. Parce que le fils, c'est le rire de Dieu. Au fond, c'est le sourire de Dieu, si vous voulez. C'est l'épanouissement, c'est la fécondité. Et puis, Jacob, vous avez cette triple paternité. Et tout commence par la famille. Une famille avec l'autorité du père, l'autorité du patriarche. Famille patriarcale, qui est une famille parfaitement fondée. Et de cette famille, après la grande purification, où l'aspect patriarcal va être terriblement brisé, après cette grande purification, ou cette grande lutte, très plus juste, du passage en Égypte, sous le joug du Pharaon. Purification de l'Exode, du désert, et la loi est donnée. Vous passez de la famille au peuple. Vous passez de la famille à l'aspect institutionnel. La famille n'a pas d'institution au sens rigoureux. L'institution, c'est le peuple. Il y a l'aspect institutionnel, il y a une loi. Peut-il y avoir une institution sans loi? Non. Or, la famille, c'est la communauté sans loi. Ça, c'est ce qui est merveilleux dans la famille. La communauté sans loi. Parce que la finalité est suffisamment forte pour qu'on n'ait pas besoin de loi. Quand la finalité tend à disparaître, on a besoin de la loi. Pour que, de fait, la finalité soit thématisée dans la loi. Et la loi thématise la finalité. Pour tout le monde. Ça rend la finalité universelle au niveau commun. Ce phénomène de la loi est extrêmement important. Il est capital dans l'Ancien Testament. À ce point que la grande tradition juive, telle qu'elle est vécue aujourd'hui, regarde beaucoup plus Moïse qu'Abraham. Ça me frappe toujours beaucoup, ça. C'est Moïse. C'est la Torah. Mais tout est ramené à la Torah. Et non pas à la famille. La famille est mise entre parenthèses. Et le peuple, pour qu'il soit parfaitement peuple, demande un gouvernement royal. Le peuple n'est parfaitement peuple qu'avec le roi. Quand on croit que le peuple doit être démocrate, un gouvernement démocratique, c'est une erreur. erreur au point de vue politique. Parce que, le point de vue, ce que dit cette parole si forte d'Aristote, le gouvernement n'est parfait que quand il est un. Ça c'est vrai. Bon, pour des quantités de raisons, on comprend très bien ce que peut représenter la République, la Res Publica. Mais je regarde au point de vue philosophique. Et je vois que, de point de vue théologique, je veux dire, puisque c'est la théologie de l'économie divine, et je vois que le roi est tout de suite pris par la grande tentation de la gloire. Il en perd la tête. Salut. C'est extraordinaire, ça n'a pas duré longtemps. Il a perdu la tête. Il a été grisé par la gloire. À tel point qu'il a été jaloux de son ami. Ça, c'est le con. Il a voulu le tuer. La gloire qui veut tuer David, qui vient le rival, à cause de la gloire. Ce serait très important d'étudier la jalousie de Caïn et la jalousie de Saül. Deux types de jalousie totalement différentes. L'une et l'autre viennent briser l'unité. On brise la famille, on brise l'aspect politique. D'où la nécessité des prophètes. Que font les prophètes? Ils viennent compléter la loi. La loi n'est pas assez forte pour rappeler le point de vue de la finalité, il faut les prophètes. Et les prophètes sont des cris pour rappeler la finalité, la primauté absolue de la finalité. C'est la grandeur des prophètes. Et là, ce serait très grand, en théologie de l'économie divine, d'essayer de comprendre tous les prophètes comme rappelant la finalité. Et toutes les manières dont les prophètes rappellent la finalité. Parce que c'est en théologie, je dis bien, pas en exégèse, mais en théologie de l'économie divine. Et qu'est-ce qui se passe? Le sommet de la politique divine, de l'économie divine, c'est la famille. C'est la sainte famille. Vous avez famille, l'aspect politique du peuple de Dieu, et la famille. Et la famille est le sommet. La sainte famille, c'est le sommet. La théologie de l'économie divine a son sommet dans la sainte famille. Et l'Église continue ce mystère de la Sainte Famille pour porter l'humanité. Ça me frappe beaucoup, ça, vous voyez, de comprendre ce contraste qui, au point de vue de la théologie de l'économie divine, me semble extrêmement net. Ce contraste au plan divin, la famille est le sommet. Au plan politique, la famille est fondement. Donc, finalité divine, fondement humain. Alpha, oméga. Mais il ne faut pas faire une espèce de petite salade russe avec les deux. Aujourd'hui, la salade russe, c'est la dialectique. Et là, il ne faut pas faire une espèce de salade russe ou soviétique, si vous aimez mieux, n'est-ce pas? Avec les deux. Alors à ce moment-là, vous opposez fondement et finalité. La finalité a besoin du fondement pour se maintenir finalité. Mais c'est net, je crois, et je crois qu'on doit toujours avoir ça comme ligne de fond. C'est pour ça que je vous le dis au début. Parce que nous faisons ici de la philosophie pour maintenir la théologie. Je ne fais pas tout à fait la philosophie ici, comme à Rimmon. Vous êtes en théologie. Et nous faisons de la philosophie pour maintenir tout le temps la réflexion humaine dans la lumière de la foi. Donc si on fait une philosophie politique, on doit toujours voir derrière une théologie de l'économie divine. Et c'est pour pouvoir établir une vraie théologie de l'économie divine que nous faisons une philosophie politique. Alors, je souligne tout de suite ces deux perspectives qui, je crois, sont visibles. La théologie de l'économie divine touche son sommet dans la Sainte Famille. Et la Sainte Famille s'achève à la croix. La Sainte Famille ne s'achève pas avec la mort de Joseph. C'est aussi très curieux. Je suis très étonné que Joseph meure avant. Parce que quand même, Joseph, c'est l'autorité. C'est le patriarche. Selon les litanies de Saint-Joseph, c'est un lieu théologique mineur, mais c'est quand même un lieu théologique, puisque c'est la dévotion du peuple de Dieu. Patriarche du patriarche. Et comme c'est curieux, Abraham revivite en Joseph. Joseph, fils de David. Donc la royauté, Abraham. Joseph a tout ça. Si vous voulez vraiment étudier la théologie de Saint-Joseph, dans une théologie de l'économie divine, ce qui serait très intéressant, ce serait Abraham et David. Il y a les deux. Joseph et l'autorité. Comment se fait-il que l'autorité disparaisse? Elle meurt. Pour laisser que la Sainte Famille se ramène à Marie et Jésus. Vous allez me dire, c'est une famille tronquée. Quelquefois, on a tous vu ça. Quand le père disparaît, surtout quand il meurt sur le champ de bataille, les veuves parfaitement veuves, je dirais, c'est les veuves de guerre. C'est très curieux. Et quand le père meurt, la famille se resserre. De façon très étonnante. Avec tous les avantages et tous les inconvénients. Psychologiquement parlant. Un phénomène constant, et qu'on voit ça très fort chez les veuves de guerre, qui ne se remarient pas, à cause de la mort héroïque de l'époux. Alors, elles ne se remarient pas. Et alors, il y a à ce moment-là un phénomène très curieux, un phénomène affectif, parce que la famille est beaucoup plus fragile, elle n'est plus parfaite. Donc elle connaît une vulnérabilité beaucoup plus grande. Et alors il y a ce phénomène de reprise d'une finalité beaucoup plus forte. La Sainte Famille s'achève dans un veuvage. Et la mort du père ne supprime pas la famille. Elle la resserre. C'est ça qui est phénomène très curieux. La communauté s'étroit. Quand il y a la mère et le fils, c'est suffisant. Parce que le père reste présent dans le cœur. Mais l'autorité, dans son exercice d'autorité et de pouvoir, disparaît. Pour qu'il n'y ait plus que la relation de la mère et du fils. Et la Sainte Famille se termine à la croix. Ça c'est sûr. La Sainte Famille se termine dans la gloire. Dans la résurrection, avec ce phénomène particulier du sépulcre. Le mystère du sépulcre est familial. On sait bien ça. Il n'y a que la famille qui peut comprendre ce que c'est que le mystère du sépulcre. Du point de vue politique, on a un cimetière qui n'est plus du tout le phénomène du sépulcre. C'est la fausse commune. Aujourd'hui, ça se réduit à la petite coupe où on met les cendres. C'est curieux ce phénomène-là. Et tout se termine donc par la croix. La Sainte Famille a ce phénomène spécial. Donc, et l'Église, elle est famille et peuple. les deux. Alors, c'est pour ça qu'il faut tout le temps être très attentif à ce phénomène très spécial qu'on voit dans la théologie de l'économie divine, famille, peuple, famille. Dans l'Église, vous avez constamment les deux. Famille et peuple. Et vous devez garder les deux analogies pour comprendre ce qu'est le point de vue de l'économie divine. Si vous prenez que l'analogie politique, vous oubliez le phénomène de la finalité. Et c'est la loi qui domine. C'est l'aspect formel de la loi. Et la finalité disparaît. Alors maintenant, entrons au plan philosophique. Ça, c'est la toile de fond. Pour vous rappeler que ce que nous disons est très important pour la théologie de l'économie divine. C'est la fresque qu'il faut toujours avoir derrière. Quelques mots d'abord au point de vue historique, topic historique. On doit la faire. Alors, je ne la fais pas avec vous. Ça durerait trop longtemps, mais c'est nécessaire. Faire une topique historique de la philosophie politique. On peut la faire assez facilement, parce que il y a des livres, j'ai oublié le nom, mais vous savez sûrement, qui donnent quand même une topique assez intéressante au point de vue historique. Il manque un point de vue philosophique dedans, mais historiquement, on a tous les grands philosophes qui ont essayé d'élaborer une philosophie politique. La philosophie politique a commencé par une philosophie de la famille. Hésiode, le travail et les jours. Et la famille est enveloppée par le phénomène du travail. Hésiode donne en même temps une théogonie, une vision de Dieu. Il y a le phénomène du travail, qui est très très net. Ensuite, on n'a plus parlé de la famille et de la politique. Pour retrouver une vraie philosophie politique, il faut aller d'Hésiode à Platon. Je crois qu'il n'y a rien entre deux. Alors vous pourriez dire, oui, il y a les pythagoriciens qui nous donnent le phénomène des communautés religieuses. Ça, c'est les pythagoriciens. Alors c'est peut-être important à voir. La famille, la communauté religieuse, et la politique. C'est vrai. Les pythagoriciens nous donnent un phénomène très particulier des communautés religieuses. Et on voit dans le pythagorisme ce que se représentent les communautés religieuses. Les communautés religieuses, c'est pour sauvegarder la finalité humaine de la contemplation. La famille humaine, c'est pour sauvegarder l'espèce, la survie de l'espèce. La finalité première de la famille, pour Hésiode, c'est la survie de l'espèce. Ça, c'est net. Tout le monde est d'accord là-dessus. La fécondité. Et la communauté religieuse, sauvegarder l'aspect contemplatif. Et alors, vous voyez ensuite la grande philosophie politique dans la République. Il faut avoir lu une fois dans sa vie quand même la politique d'Aristote. Si vous l'avez pas encore, la politique de Platon. Si vous l'avez pas encore lu, il faut trouver le temps pendant les vacances. C'est un livre magistral. On ne peut pas ne pas avoir lu ça. Hein. C'est un livre très intéressant. Il y a tout le temps à boire et à manger. Puisque vous avez un communisme intégral, une nostalgie du communisme, un pays guerrier. Donc il y a des choses étonnantes dans la République. C'est un rêve extraordinaire, un rêve royal de Platon. Mais c'est beau de voir ce rêve royal. Faites la psychanalyse de Platon en analysant la politique. Et vous avez alors une psychanalyse extraordinaire avec le livre de la République. La République dont le sous-titre, c'est la justice. Mais il faut avoir lu. Si on fait un tout petit peu de philosophie politique, il faut avoir lu Platon. C'est le grand-père de la philosophie politique. Oui, juste avant, il n'y a que des éléments. Hésiode, les pythagoriciens, il y a des éléments. Platon fait une synthèse magistrale, étonnante, religieuse, contemplative. Et politique. Ce qui est terrible chez Platon, c'est que la famille est complètement dissoute. Il n'y a rien au point de vue de la famille. Politique sans famille. Alors, c'est très très intéressant pour nous, aujourd'hui. Parce qu'une politique poussée à l'extrême, au point de vue marxiste, c'est une politique sans famille. Au sens propre. La famille sera uniquement pour donner des gosses. Mais d'où la païdéia, et la païdéia est capitale dans la vision de Platon. La païdéia, l'éducation, la païdéia, c'est le gouvernement dans toute sa force. Et ce qui reste de la famille, c'est la païdéia. Mais la païdéia est saisie par le point de vue politique. Le point de vue politique a comme mission première de former des hommes. Et en premier lieu, des guerriers et des magistrats. Alors, est-ce que les guerriers passent avant le magistrat, ou le magistrat avant le guerrier? Demandez à Lénine. Mais c'est la grande bascule. Tant que l'armée demeure, ça va. L'aspect politique peut rester. Et c'est les deux forces. Vous voyez? Et ça, dans Platon, c'est admirable. Hein, c'est l'avantage, c'est que c'est vu avec du recul. Et on voit là ce que ça peut être. C'est l'individu qui fonde la communauté. Pourquoi? Parce que cette vision est une vision contemplative à la manière de Platon. C'est vu d'en haut et pas d'en bas. C'est vu à partir de la bonté divine comme intermédiaire entre la bonté divine et la communauté humaine. C'est la justice. C'est la justice qui va permettre à la communauté humaine d'exister. Un relent de Parménide qui demeure. Faut pas l'oublier. La tyché, la justice, a joué un rôle capital du reste. Puisque République, le second nom, c'est justice. Et la justice est écrite en lettres majuscules chez ceux qui gouvernent et en lettres minuscules dans le bon peuple. L'exaltation de l'autorité. La divinisation de l'autorité chez Platon. Puisque c'est le philosophe contemplatif qui peut seul gouverner. Vous avez donc une espèce d'exaltation extraordinaire de l'autorité. Et l'autorité est tellement souveraine que chez lui, l'autorité et la puissance ne font qu'un. Celui qui gouverne parce qu'il contemple a le droit de mentir. Puisque le bon peuple, la masse, n'y comprend rien. Elle ne peut rien y comprendre. Elle est dans la caverne, donc elle ne comprend rien du tout. Il faut donc la conduire. Et comme elle ne comprend pas, on peut mentir autant qu'on veut. Vous voyez Machiavel qui est présent maintenant. savez, Platon donne naissance à tout. Il a donné naissance à la politique d'Aristote. Il a donné naissance à Machiavel. Il a donné naissance au marxisme. Il faut surtout pas dire ça au marxisme, parce que Platon, c'est bourgeois. Mais la politique de Lénine est une politique bourgeoise. C'est évident. Puisque c'est une petite élite qui gouverne tout. Et qui prend tout. Alors, il faut saisir ce que c'est. Parce que la République de Platon est très, très actuelle. C'est ce qu'on voit. Et je crois que c'est très, très important de lire ça attentivement. Et là, vous voyez comme c'est curieux que c'est dans la politique que Platon va donner, en quelque sorte, la critique de la connaissance. C'est ce qui va fonder sa grande vision. C'est d'une part la contemplation, d'autre part ce qu'est la vérité, la recherche de la vérité, le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne est comme le fondement de toute la politique de Platon. Ça, Heidegger l'a très bien saisi. C'est le fondement. Si vous supprimez le mythe de la caverne, vous ne justifiez rien. Qu'est-ce qui justifie toute la politique de Platon? C'est le mythe de la caverne. C'est un mythe. C'est l'origine de la connaissance. Pour montrer la nécessité absolue de la contemplation. Et pour montrer que seul le philosophe peut être roi. Parce qu'il contemple. Et comme c'est très très grand, très séduisant, la République. Et je crois que ça fait partie de cette nostalgie de tout homme politique d'aujourd'hui. Si vous faisiez la psychanalyse des hommes politiques de droite et de gauche, vous verriez ça. Cette nostalgie absolue de pouvoir dominer au nom de la justice, au nom de la justice, libérer l'homme et libérer en le faisant sortir de la caverne. Il y a quelque chose de très grand, de très beau, mais évidemment, c'est un mythe. Donc c'est une nostalgie. C'est la nostalgie peut-être la plus fondamentale de Homo Politicus. C'est pour ça que c'est grand. Et je crois que toute philosophie politique doit commencer par montrer ce qu'est la République de Platon. Vous voyez, quand Heidegger dit que toute la philosophie occidentale n'est qu'une interprétation marginale de Platon, c'est un peu la vérité. Or, la République représente la première philosophie politique. Alors, si je le prends génétiquement, c'est une disposition, c'est un mythe, c'est une espèce de projection d'un idéal. Mais dès qu'on est fatigué, l'aspect génétique devient la détermination. Et je crois que ça détermine des quantités de choses dans la politique occidentale, qui est commandée par ça. Alors prenez les deux pôles de cette politique, la contemplation, le mythe de la caverne. C'est les deux pôles, du point de vue intellectuel, et qui font comprendre tout le reste. Et saisissez que ce fondement, parce qu'il est purement intellectuel, c'est l'intelligence, et non pas l'amour, la famille disparaît. La fécondité existe, mais l'amour disparaît. Mais comme c'est actuel, il faut sauver la fécondité, ça c'est bien évident, à tout prix. Et on sauve la fécondité, mais coupé de l'amour. pour que, soi-disant, on s'aime plus. Immédiatement, alors il y a les lois. Mais les lois, c'est intéressant. Allez, c'est le vieux Platon qui comprend que peut-être c'est un mythe. Alors, il donne quelque chose. Mais ça n'a pas, j'allais dire, l'élan de la République. C'est à lire en parallèle les lois. Ce qui est important, c'est de voir qu'Aristote va essayer de nous donner une vraie philosophie politique. Je dis, il va essayer. Un des livres les plus difficiles à lire d'Aristote, le plus complexe. Il faut voir comment on interprète les lois aujourd'hui. Avec la perspective hegérienne, c'est-à-dire de l'évolution de la pensée d'Aristote, on essaie de voir toutes les étapes. Alors que je crois que la politique d'Aristote a une unité philosophique, mais qui est complexe. L'aspect génial d'Aristote, c'est de montrer que l'éthique est premièrement personnelle. Je ne dis pas individuelle, mais personnelle. Il y a une éthique de l'amitié et de la contemplation. Ce n'est plus la justice qui commande tout, c'est l'amitié. L'amitié est gardienne de la justice. L'amitié présuppose la justice. Et en présupposant la justice, elle est gardienne des vertus cardinales. Il y a une éthique personnelle. Parce que le bonheur que l'homme cherche ne peut être que personnel, individuel. C'est le bonheur de chacun. Il n'y a pas de bonheur collectif. Aristote a très bien saisi ça. Celui qui cherche le bonheur dans la communauté est toujours déçu. Et peut-être que tous les murmures proviennent de ça. C'est qu'on oublie que le bonheur est personnel. Et on voudrait que la communauté vous donne le bonheur. Non. Aristote a très bien perçu ça. Et là, il est en opposition vis-à-vis de Platon. Ou plus exactement, il corrige Platon. Parce que pour Platon, je ne dis pas que l'aspect politique doit donner le bonheur, puisque le bonheur, c'est la contemplation. Mais il y a une dépendance entre les deux. Il y a un lien de nécessité. Tandis que pour Aristote, il n'y a pas de lien de nécessité. De sorte que l'éthique est d'abord personnelle, et l'éthique cherche le bonheur. Et cette éthique va se compléter par une politique. Et la politique, ce sera avant tout, comprenons bien, la nécessité que l'homme a d'être